Est-ce que vous aimez ça quand les athlètes s'expriment sur des sujets qui n'ont rien à voir avec leur sport? Est-ce que vous aimez ça quand ils profitent de leur notoriété pour donner leur avis sur des enjeux sociaux, économiques ou politiques? Mon collègue Alexandre Pratt, columniste à La Presse, a posé cette question très pertinente dans une de ses chroniques la semaine dernière. J'ai le plaisir de l'accueillir. Il est en studio avec moi ce soir. Salut Alexandre.
Salut Philippe.
Alexandre, d'abord ta chronique, elle commence, tu nous racontes l'histoire dont je viens de parler, qui met en vedette un gars qui s'appelle Alejandro Bedoya. Alejandro Bedoya, c'est un joueur de Major League Soccer pour l'Union de Philadelphie qui dispute récemment un match à Washington. Et tout ça, c'est après les tueries d'El Paso et de Dayton qui ont fait plus de 30 morts aux États-Unis. Et malheureusement, on s'en souvient trop bien. Et là, il marque un but. Et après avoir marqué son but, il célèbre un peu avec ses coéquipiers. Puis là, il se dirige dans le coin. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce que ça va faire là, dans le coin du terrain? Mais là, il voit, il y a un micro qui est planté là. Mais c'est un micro pour vraiment capter le son ambiant, là, les coups de pied des joueurs, puis l'effort qu'il consacre au match. Et là, il s'en approche. Et là, il se met tout proche. Et voici ce qu'il dit. Congress, do something now! End gun violence, let's go! Alors, il dit « Hey, le Congrès américain, faites quelque chose. Arrêtez la violence armée. » Alors, évidemment, les commentateurs de Fox sont « Oh, voilà quelque chose d'inhabituel. On n'est pas, habitué d'entendre ça. » C'est quand même un geste assez audacieux. Et bien sûr, après le match, Alejandro Bedoya est questionné « Pourquoi as-tu fait ça? »
It's absurd, man. I mean, I'm not going to sit idly and watch this stuff happen and not say something. Before I'm an athlete, before I'm a soccer player, I'm a human being first. This stuff affects me. I got kids.
Alors voilà, avant d'être un athlète, je suis un être humain. Ce type de choses qui s'est produit, ce drame, cette horreur, ça me touche profondément. J'ai des enfants, je ne peux pas rester silencieux, je dois parler. Quand même un comportement un peu inhabituel. Alexandre, comment ça t'a assez interpellé, évidemment, pour que tu y consacres une chronique, mais comment tu vois ça, ce qui s'est produit ce jour-là?
Bien, en fait, c'est toujours délicat. Hein? Est-ce qu'un athlète peut parler ou non? C'est la même chose pour un artiste aussi. T'sais, si vous allez voir Michel Rivard puis qui se met à parler de souveraineté dans un concert, est-ce que c'est la place? Fait que ça m'a un petit peu interpellé, d'autant plus que les commentaires envers Bedoya après étaient vraiment très partagés. Là, on était vraiment dans le 50-50. La moitié des gens étaient absolument d'accord avec son geste, qu'il profite de sa notoriété, qu'il profite de sa tribune pour dénoncer les membres du Congrès. Mais il y avait aussi une autre moitié qui disait « Hey, ferme-toi et marque des buts. C'est ce qu'on te demande, c'est tout, t'es juste un joueur de soccer. » Et elle est où la limite, en fait? Parce que est-ce qu'un athlète est un demi-citoyen? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de se prononcer sur les enjeux parce que c'est un divertisseur ou un entertainer? Et je ne pense pas. Je pense que les athlètes ont le droit, comme tous les citoyens, en fait, de pouvoir se prononcer. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit de tout dire? Est-ce qu'ils ont le droit de le dire dans le stade, à l'extérieur? Là, il y a plusieurs couches, niveaux de couches, je dirais.
Ben, il y a clairement le phénomène Trump qui alimente ça. Ça, c'est clair. Les États-Unis sont plus polarisés que jamais, plus divisés que jamais. Et on regarde un peu ce qui s'est produit cet été. Pour moi, là, ce qui est arrivé avec Alejandro Bedoya, c'est vraiment, ça s'inscrit dans une tendance lourde avec Megan Rapinoe, la capitaine de l'équipe américaine de soccer qui a remporté la Coupe du monde de soccer, qui a dit « On n'ira jamais à la Maison-Blanche sous Trump. Cet homme-là divise les gens, il ne croit pas en nos droits. » Donc, elle a été extrêmement éloquente à ce sujet-là. Elle a parlé avec force, avec vigueur. Et c'est pas seulement un phénomène américain. Artemi Panarin, nouvelle vedette des Rangers de New York, a fait une sortie contre Vladimir Poutine en disant qu'il n'est même pas capable de distinguer le bien du mal. Alors, on dirait que c'est un phénomène qui s'est sans doute amorcé dans la foulée de l'affaire de Colin Kaepernick. Oui. Mais qui, là, se poursuit avec plus d'ampleur.
Oui, et en fait, ce sont des bons cas, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire, il y a aussi plusieurs athlètes qui se prononcent en faveur de Trump et qui n'ont pas peur de dire, juste chez le Canadien de Montréal, Ryan Poehling est un supporter de Trump. Il retweet souvent, en fait, des effets de propagande de Donald Trump. Il y a aussi des joueurs de baseball. Curt Schilling, qui est un ancien lanceur étoile, qui a aussi pris position pour Trump. De façon générale, les joueurs de baseball sont plus républicains aussi. Il y en a beaucoup là, qui ont supporté plusieurs des politiques de Trump. Fait que ça va dans les deux sens.
Moi, John Daly, aujourd'hui, le golfeur qui a fait un message Twitter en hommage à Donald Trump.
Bien, ceci dit, nous, on n'est vraiment pas habitués à ça au Québec. Pourquoi on n'est pas habitués? D'abord, des athlètes professionnels québécois. Quoi, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, au baseball, il y en a un présentement. Il y en a un au basket. Il y en a peut-être deux ou trois au football. Puis la plupart jouent au hockey. Puis la plupart des athlètes que nous, les médias, on a l'occasion de rencontrer souvent dans une année jouent pour le Canadien. Et le Canadien, ce n'est pas précisément une organisation qui a laissé parler ses joueurs à travers le temps. tu as connu une autre époque, Philippe, ouais. notamment avec Guy Lafleur. Guy Lafleur s'était prononcé politiquement, puis ça l'était fait rappeler aussi. Là.
Tout à fait, tout à fait. Dans le temps du référendum de Charlottetown, ça avait été un épisode assez difficile pour lui. Et c'est sûr qu'une équipe comme le Canadien là, veut absolument éviter ça. Mais au-delà des joueurs de hockey, avec les médias sociaux aujourd'hui qui donnent, qui permettent aux joueurs de s'exprimer très rapidement sur un enjeu. Ça aussi, ça change la donne.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est l'aspect le plus intéressant. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 80-90, l'époque que j'ai plus connue, les joueurs, s'ils voulaient dire un message, c'était soit un journaliste, puis c'était pas tout à fait l'occasion de le faire, ou sur le terrain, mais on en voyait très peu sur le terrain. Et les événements se multiplient. T'sais. Pour un Mohamed Ali, oui, dans les années 60, qui a fait de la contestation, récemment, il y en avait moins. Et là, on en voit de plus en plus. Panarin, c'est vraiment un très, très bon cas, en fait, mais son entrevue était très complète. Il disait que quand il est arrivé aux États-Unis, entre autres, il avait rencontré Obama, puis quand il a serré la main d'Obama, il a fait comme l'amour en voulant dire t'es un imbécile, puis en fait Obama s'est reviré de bord, puis il a fait un regard en voulant dire coudon, mais qu'est-ce que tu fais? Là, il a changé son fusil d'épaule, maintenant c'est un opposant au régime. On voyait pas ça avant.
Non, et quel là, courage quand même de Panarin, parce que cette entrevue-là qui a été diffusée sur une chaîne YouTube, il l'a donnée à son appartement de Saint-Pétersbourg en Russie. Et puis, il a dit des choses quand même assez, en fait, très fortes. Oui. Il dit, quand on écoute la télévision d'État aujourd'hui, chez nous, en Russie, on dirait que le monde entier, c'est le diable qui n'a qu'un seul objectif au monde, c'est de faire mal à la Russie. Oui. Si tu regardes ça, c'est désespérant.
Absolument, absolument. Donc, oui, c'est très intéressant. Et je pense que c'est justifié, en fait, de la part des athlètes. Beaucoup de gens, donc, veulent que les athlètes se taisent. Je ne suis pas de cette école-là. Je pense que surtout à l'extérieur du terrain, honnêtement, les athlètes peuvent dire à peu près n'importe quelle idée politique. Moi, que Ryan Poehling se prononce en faveur de Donald Trump, ça rejoint peut-être pas mes valeurs, mais je suis tout à fait pour cette liberté d'expression.
Tu lui reconnais ce droit, bien sûr.
Absolument. Je veux dire, on le reconnaît pour les dentistes, on le reconnaît pour les camionneurs, pour les infirmières. Pourquoi un athlète n'aurait pas le droit de se prononcer sur son compte Twitter, sur son compte Facebook, dans la vie publique en faveur de gens? J'ai absolument aucun problème avec ça. Là où je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand on entre dans le stade. Et là, je vais vraiment faire une distinction, en fait, entre deux grandes lignes, c'est-à-dire la propagande politique pure et les causes sociales. Je pense pas que la propagande politique a sa place. T'sais, si Jonathan Drouin marque un but pendant les élections puis qu'il lève son chandail puis qu'en dessous, il y a, je sais pas, un chandail du Parti vert ou des libéraux, des conservateurs, je pense que tout le monde va trouver ça absolument déplacé. De la même façon que si vous travaillez en vente, vous n'allez pas voir votre client puis lui dire « Hey, by the way, je te refile une carte de... » Ça s'est déjà fait. Je sais qu'il y a des compagnies là, des années 2000 qui ont fait ça. Mais je pense que c'est déplacé. T'sais, de la même façon que si, je sais pas, vous allez dans un hôpital, vous n'attendez pas à ce que le médecin vous fasse un pitch pour le parti politique qui l'appuie. Donc, on peut se demander, est-ce qu'un stade, c'est un lieu de travail? T'sais? Puis est-ce que si tu es sur un lieu de travail, tu dois mettre de côté tes allégeances politiques? Je vais faire une distinction entre les causes sociales et les allégeances politiques. Personnellement, ça me met mal à l'aise. T'sais? Megan Rapinoe, qui est un cas intéressant, je pense pas que c'est la place sur un terrain d'aller dire « voter pour les démocrates puis sortez Trump ». Qu'elle le dise à l'extérieur, c'est tout à fait correct. Qu'elle défende des causes sociales, par exemple la cause des femmes, de l'égalité des salaires pendant qu'elle est sur
l'égalité des sexes, exactement, les droits de la communauté LGBT.
Absolument ça, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais de faire de la propagande pour un parti politique ou pour un régime politique, ça, je trouve que c'est déplacé.
Et dans ton article, tu soulevais un autre point très intéressant. C'est que l'histoire, au bout du compte, va finir par juger les prises de position des athlètes. Puis tu disais, il y a des athlètes qui se sont exprimés à l'époque. Par exemple, ceux qui étaient les joueurs de baseball en 1947, qui étaient contre l'arrivée de Jackie Robinson dans le baseball majeur, premier joueur afro-américain à jouer dans les majeurs. Ben, ils se sont retrouvés du mauvais côté de l'histoire. Absolument. Et par contre, Johnny Carlos et Tommy Smith, les sprinteurs américains gagnants de la médaille d'or aux Jeux olympiques du Mexique en 68, ils ont été énormément critiqués parce qu'ils ont brandi le poing sur le podium après avoir remporté la médaille. Eux, ben, l'histoire a été beaucoup plus tolérante à leur endroit.
En effet, puis je pense que si un athlète prend le risque de commettre un geste politique ou d'appuyer une cause sociale, surtout sur le terrain, mais même à l'extérieur, je suis tout à fait pour qu'il le fasse. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Un très, très bon cas. Tu sais, Le cas de Bedoya est assez facile parce qu'au Québec, presque tout le monde est contre, est en faveur d'un contrôle des armes à feu. Fait que c'est pas un cas très légitime. Mais prenons l'avortement. Et prenons que Bryce Harper, qui est un catholique qui joue pour les Phillies de Philadelphie, frappe un circuit et après lève son chandail et il est écrit Stop Killing Babies. Je pense que là, ça viendrait nous chercher un petit peu plus fort, puis on aurait un tout autre débat. T'sais. Mais pourquoi on empêcherait lui de parler alors qu'il y a peut-être des gens, au contraire, qui sont contre l'avortement ou pour l'avortement, en fait, qui pourraient se prononcer, puis on ne dirait rien. Donc, il faut être ouvert des deux côtés, je pense. Maintenant, est-ce que dans 30 ans, 40 ans, c'est un message qui aura bien vieilli? Peut-être pas. Ouais. Et c'est là que les athlètes, en fait, doivent penser à leur héritage de leur propre vivant, puis vraiment... Il pensait à deux fois avant d'appuyer une cause, de penser d'être du bon côté de l'histoire. T'sais, c'est Ryan Pilling, hier encore, qui a retweeté un tweet de propagande, je dirais, là, anti-immigration. Est-ce qu'il va être du bon côté de l'histoire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que c'est des propos qui pourraient le rattraper éventuellement? Peut-être. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il le fasse à l'extérieur. Est-ce que je partage toutes ses idées? Probablement pas non plus. Mais au final, c'est aux partisans, en fait, de juger les gens. Puis, à la limite, de cesser d'appuyer certaines personnes avec lesquelles ils sont en désaccord. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de Russes, par exemple, qui ont été très choqués de la sortie d'Artemi Panarin. Puis, ils ne voudront pas dans l'équipe nationale. Puis, ils ne vendront pas beaucoup de chandails de Panarin là, à Moscou puis à Saint-Pétersbourg dans les deux prochaines années. C'est le droit du fan aussi de dire... Regarde, je te respecte comme joueur de hockey, mais moi, je n'irai pas t'appuyer.
Ouais. Mais par contre, c'est ça, un gars comme Ovechkin, lui, s'est toujours rangé proche du pouvoir soviétique. Mais quel lapsus, pardonnez-moi. Mais du pouvoir russe qui a parfois des relents de soviétisme.
C'est ton opinion, je le respecte.
Mais donc, c'est tout ce débat-là, et je pense que le débat va s'accentuer parce qu'on regarde aujourd'hui, notamment au basketball. Et là, on s'en va vers le championnat du monde de basketball en septembre, puis l'équipe américaine qui est dirigée par Steve Kerr et Greg Popovich, deux opposants à Trump, qui sont extrêmement vocaux pour dénoncer aussi le manque de mordant dans la lutte aux armes à feu aux États-Unis. Et eux, ils profitent de chaque tribune pour dire véritablement ce qu'ils pensent.
Absolument. Mais moi, je suis plutôt en faveur tant que c'est pas sur le terrain. T'sais, les deux règles de base, pour moi, il ne faut pas que ça interrompe le jeu. Et un joueur, par exemple, qui irait en plein milieu d'un jeu puis qui cesserait un jeu pour faire valoir une cause, ça devrait pas aller. Puis la propagande sur le terrain, non. Mais on pourra en parler plus longuement. Mais les causes sociales à l'extérieur, par exemple, dans un point de presse, après, honnêtement, j'ai absolument aucun problème avec ça.
OK. Donc, je suis en compagnie d'Alexandre Pratt, qui est columniste à la presse et qui réfléchissait la semaine dernière dans son papier. Les athlètes doivent-ils se taire ou doivent-ils parler? On sait qu'ils le font de plus en plus. Mais je veux juste revenir sur ce dont je parlais tantôt. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui est en ascension? Parce que on dirait que l'affaire de Colin Kaepernick, à quelque part, a ouvert les vannes. Trump a répliqué avec férocité au geste de Kaepernick. Et là, les gens ont pris position. Et depuis ce temps-là, ça n'arrête pas. Là.
Oui, en fait, je pense qu'il y a déjà eu une autre époque. Là. On parle de, mettons, entre 1960 et 1970, à laquelle c'était très populaire. Bill Russell, par exemple, des Celtics de Boston, qui est un joueur noir à qui on avait refusé de servir, en fait, dans un restaurant de blanc. Il avait refusé de jouer. Il avait refusé, en fait, de jouer un match là, pour les droits des Noirs. Même chose pour Mohamed Ali. Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de causes de défense des minorités dans les années 60. Après ça, on a vécu des périodes plus conservatrices, les années 80, 90, 2000. Mais on revient aux droits des minorités. C'est même, je dirais, le principal débat de société présentement, même au Québec. L'immigration, par exemple, présentement, la défense des droits des minorités, les droits libéraux versus les valeurs conservatrices, on est en plein dedans. Ils ont les mêmes débats aux États-Unis présentement. Et il y a de plus en plus de gens qui se prononcent. Les droits pour les homosexuels, par exemple. Les ligues, même, appuient maintenant des causes. On voyait pas ça avant. Le baseball majeur, il appuyait aucune cause dans les années 40 puis 50, même quand il y avait la fin de la ségrégation. Maintenant, par exemple, la MLS au soccer appuie les droits des gays. Le basketball appuie la diversité. Le baseball majeur appuie aussi la diversité.
La Ligue nationale de hockey aussi.
La Ligue nationale de hockey. Il y a même des règles, en fait, au baseball majeur qu'avant d'interviewer une personne dirigeante, en fait, ils doivent absolument avoir un nombre de personnes issues des minorités, des femmes, des Noirs, des Latinos, des Asiatiques. Donc, les ligues défendent les causes. Je verrais mal comment les ligues pourraient imposer des pénalités à leurs athlètes qui, à leur tour, défendent des causes. Ouais. Ça serait un petit peu absurde. Ouais. Ça serait hypocrite.
Et d'ailleurs, tout de suite, quand c'est arrivé l'histoire de Bedoya, quand il a fait sa sortie ou son commentaire après avoir marqué le but, Major League Soccer a dit, et l'Union de Philadelphie a dit, bon, c'est correct, c'est son opinion.
Mais c'est très intéressant qu'en fait, la Major League Soccer n'ait pas mis à l'amende Bedoya, parce que traditionnellement, elle le peut. En fait, même, il y a un coach du Real Salt Lake City qui a même perdu son emploi cette semaine après avoir traité un arbitre d'homosexuel. Je ne dirais pas le mot exact, mais ça ne se prononce pas à la radio. Et la Ligue a réagi. En fait, le coach a été suspendu 3 matchs, mais ils ne l'ont pas fait pour Bedoya. Donc, ça veut dire que la Ligue est tout à fait en phase, en fait, avec ce que Bedoya a dit aussi. Là. Donc, c'est ça, je trouverais... Il y aurait quelque chose d'hypocrite dans le fait qu'une Ligue soudainement se mettrait à se faire le censeur, en fait, des idées politiques sur la glace, sur le terrain de baseball ou de basketball.
Tout à fait. Je suis en compagnie d'Alexandre Pratt, columniste à la presse, et on parle du droit des athlètes de s'exprimer sur des enjeux qui sont à l'extérieur de leur sport. Et pendant la pause, évidemment, on a continué un peu la conversation. Et puis c'est vrai que des cas, il y en a eu tellement. Mohamed Ali, qui est allé en prison parce qu'il a pris la parole, puis quand il est mort, c'était un héros américain. Puis même ici, sur une scène plus locale, je me souviens, les gens, hier, on parlait de baseball, on parlait de la grève de 1994. C'était la date anniversaire, c'était le 25e. Mais quelques années plus tôt, les expos étaient dirigés par Buck Rogers. Alors, Buck Rogers, c'est un gérant très populaire. Les gens l'aimaient énormément. Et Buck Rogers a finalement été congédié. Puis quand il a été congédié, il a écrit une chronique dans la presse. Il y avait une chronique hebdomadaire dans laquelle il disait que Montréal était en train de mourir à petit feu. Et là, de voir que Buck Rogers se prononçait sur cette question-là, portait un jugement sur sa ville d'accueil. Ça avait créé une tempête, mais alors là, une tempête absolument incroyable. Alors donc, on voit que ça provoquait des débats dans le temps, puis ça provoque encore des débats aujourd'hui. Mais Alexandre, je veux qu'on élargisse un peu la conversation. Tu as couvert le hockey, le baseball au tournant des années 2000, 1990, fin des années 90, début des années 2000, puis là, tu reviens après avoir été patron à la presse pendant des années, tu reviens à l'écriture. Est-ce que tu trouves que le discours des athlètes, et là je parle pas au niveau politique ou des enjeux sociaux, je parle simplement par rapport à leur sport, par rapport à leur vie d'athlète. Est-ce que tu trouves que c'est trop aseptisé ou que non, ils disent vraiment ce qu'ils pensent vraiment, puis qu'il y a des bonnes citations, puis que c'est le fun de les entendre?
Ben, en fait, je dirais qu'au début des années 2000, il n'y en avait aucune bonne citation. Honnêtement, même c'était même difficile de parler aux joueurs. Vladimir Guerrero, avec les expos, j'ai couvert les expos 3 ans, il ne m'a jamais adressé la parole. T'sais, une fois, j'ai demandé, il avait été élu pour aller au match des étoiles, puis je disais, ah, j'aimerais savoir une citation, puis je suis occupé, je lis mon Playboy. Je trouve qu'on a quand même un petit peu évolué là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est tous les joueurs qui parlent? Non. Puis, je mettrais une barre à un niveau à 10 % des joueurs sont vraiment très intéressants. 90 répètent la cassette toujours. Ouais. Mais le 10 % intéressant est vraiment très intéressant. Je vais prendre Samuel Piette avec l'Impact. La semaine dernière, il donne un point de presse normal. Mais après le point de presse, je vais le voir. Je dis, Samuel, je veux juste te parler 2 minutes. Je veux te parler de l'anxiété. Tu as un nouveau joueur qui s'en vient dans notre équipe, Boyan, qui est anxieux, il en a déjà parlé. Il a fait une grosse sortie, en fait, pour expliquer que ses équipes n'avaient jamais pris au sérieux le fait qu'il était anxieux, qu'il faisait des crises de panique. Je dis, tu sais, Samuel, c'est quoi la proportion des joueurs qui font de l'anxiété avec qui tu as joué? Il dit, c'est 100%. Tous les joueurs sont anxieux. Puis là, il s'est vraiment ouvert.
Il y a des niveaux, par exemple.
Oui, évidemment, mais il s'est quand même ouvert là, vraiment beaucoup. Il dit oui, je vais voir les commentaires sur Twitter. Puis ceux qui disent, en fait, qu'ils vont pas, c'est pas vrai. Là. On est tous là-dessus, après, on se voit. Bon. C'est quand même très ouvert. Puis encore là, on est dans des causes. T'sais, sur l'intimidation, on a beaucoup entendu les joueurs là, parler là, cet hiver. T'sais. Ils parlent peut-être moins de la politique peu réactive, peut-être moins qu'on aimerait l'entendre. T'sais, j'aurais aimé, par exemple, entendre Claude Julien, le coach canadien, sur les droits des Franco-Ontariens là, en septembre dernier, quand il y a eu une crise là, en Ontario. C'est un personnage public. Là. C'est une vedette pour les Franco-Ontariens, le Claude Julien. Bon, mais il y en a quand même. Il y en a, mais il faut gratter. Puis c'est sûr que c'est pas quand il y a 44 caméras qu'ils vont se confier. Ça va être un à un, un. Souvent, ça va être quand on va les voir à l'extérieur de l'aréna. Mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs athlètes qui prennent cause. T'sais, on va prendre Megan Rapinoe, c'est un bon cas. Là. C'est quand même des idées qui sont très franches. Colin Kaepernick, les joueurs de basketball, LeBron James.
Megan Rapinoe, je t'interromps un peu, mais Megan Rapinoe, pour moi, c'est l'athlète de l'année en 2019. Elle a provoqué un débat sur l'équité salariale dans le sport, notamment. C'est majeur ce qu'elle a fait. Là. Il y a eu des articles partout aux États-Unis, partout dans le monde. Oui. Moi, à la fin de la Coupe du monde, j'étais en vacances à Londres, puis dans les journaux britanniques, tout le monde parlait de ça, puis ça provoquait une prise de conscience aussi. Hey, qu'est-ce qui arrive avec le soccer féminin en Angleterre? De la même façon qu'on se demande ici au Canada et aux États-Unis, qu'est-ce qui arrive avec le hockey féminin? Ouais. Ça provoque des réactions.
Ben même, tu sais, quand il y a eu la crise du hockey féminin, là, il y a beaucoup de joueurs qui se sont prononcés. En fait, même, elles se sont prononcées collectivement pour dire « Nous ne jouerons pas l'année prochaine si on n'est pas payé à notre juste valeur. » On n'aurait jamais vu ça au début des années 2000, jamais. Puis, tu sais, pour un, Jean-Luc Brassard, qui va venir tantôt à l'émission, qui au début des années 2000 est un athlète qui parlait franchement, il y en avait de la cassette. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, les athlètes parlent plus librement. Il y a clairement un effet média social, surtout chez les très jeunes athlètes. Je dirais, les athlètes qui ont moins de 25 ans, ils n'ont connu que un monde avec les médias sociaux. Ils sont habitués à s'exprimer. Et il y en a qui ont beaucoup de difficultés. Il y a des joueurs de baseball aux États-Unis, les journalistes qui sont rappelés, par exemple, par les Diamondbacks de l'Arizona. Les journalistes vont voir leur passé, leur historique sur Twitter. Ils ont dit des choses absolument épouvantables quand ils avaient 18-19 ans. Mais ce sont des gens qui se sont toujours exprimés. Puis même moi, j'ai deux garçons qui ont 17 et 15. Bon, ils sont plus sur Instagram. Mais il y a des échanges, là. Je dirais qu'ils sont très, très crus aussi. Là. Tu sais, ils se prononcent sur des causes de société, pas mes gars, mais leur coéquipier, par exemple. Et je pense qu'on va avoir une génération d'athlètes qui va essayer de plus parler et peut-être aussi des équipes qui vont essayer de les restreindre davantage aussi.
Ouais,
ça
ne
fait pas toujours l'affaire de tout le monde.
Non, puis je pense que ce qui est pas mal aussi de voir, c'est que il y a beaucoup d'athlètes qui, après leur carrière aujourd'hui, puis je pense au sport amateur, qui vont prendre le choix de l'engagement politique. Tu sais, on l'a vu avec...
Lynn Bessette, la semaine dernière.
Ben ouais, voilà.
Enrico Ciccone, il y a Isabelle Charest.
Ouais. Et ça, c'est un phénomène aussi qui est relativement nouveau.
Oui, fait, au Canada, oui.
Puis je suis convaincu qu'il y a un effet d'entraînement. Tu sais, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Lynn Bessette, mais est-ce qu'on peut croire que l'exemple d'Isabelle Charest.
Ah, oui.
Surtout
qu'ils sont dans le même coin, en fait, dans Bromissisquoi. Ouais. Je pense que oui, en fait, c'est un phénomène qui a toujours été fort aux États-Unis. Hein. Des anciens joueurs de basketball, le Bill Bradley, ou des anciens corps arrière qui se présentent en politique, des joueurs de baseball, il y en a toujours. Ici, non. Puis je pense qu'on garde toujours en tête l'image de Guy Lafleur là, qui s'était prononcé, puis qui s'était quand même fait ramasser à l'époque. Puis qu'on se dit, ici, un athlète, tu sais, ferme-la, puis marque des buts, ou arrête des pucks. Puis c'est un petit peu ce qu'on a toujours pensé. Puis même quand Enrico Ciccone, c'est l'ancien politique, il y a beaucoup de gens qui ont questionné son engagement politique. Pourquoi il ne pourrait pas le faire? Est-ce qu'on pense que les athlètes n'ont rien à dire? Un, les athlètes voyagent énormément. Ils rencontrent des gens de plein d'autres cultures. La plupart, maintenant, vont au minimum au cégep, sinon à l'université. Ce sont des gens qui sont éduqués. Ce n'était pas le cas dans les années 60. Le Maurice Richard, sur qui tu as écrit, n'avait pas ce genre de discours-là.
C'était une autre époque et ça a évolué beaucoup. Hey, Alexandre, c'était super intéressant de discuter avec toi. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Alors, c'est un peu à partir de la chronique publiée par Alexandre la semaine dernière qu'on lance le sujet ce soir. Est-ce que les athlètes, est-ce qu'ils doivent ou non parler de choses qui sont à l'extérieur de le sport? Mais on peut évidemment élargir le débat.